Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vie de l'esprit. Dans Actes chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : Ananias. Il répondit : Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un certain nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Nous avons vu précédemment comment le Saint-Esprit a agi dans la première Église, l'Église qui est née à Jérusalem. On a vu comment le Saint-Esprit a suscité des diacres à un moment donné pour structurer l'Église. Il y avait ce besoin de servir dans différents niveaux. Et on a parlé d'Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, qui a résisté devant les pharisiens. Et à un moment donné, c'est l'Esprit qui lui donnait les paroles. Et Jésus nous a dit que si nous sommes accusés, nous n'avons pas à chercher notre défense parce que le Saint-Esprit nous donnera les paroles à l'instant même. C'est ce que Étienne a fait. Il a témoigné devant ces pharisiens. Et puis, on a parlé de Philippe aussi. Philippe qui était diacre à Jérusalem, mais qui est devenu évangéliste à Samarie, et il y a eu un réveil, la parole de Dieu a été prêchée, il y avait des miracles, il y avait des conversions, puis des délivrances. Et puis, Pierre et Jean sont venus à Samarie pour le soutenir, afin que les Samaritains reçoivent aussi l'Esprit. Ils étaient déjà nés de nouveau, baptisés d'eau, mais ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ça a été le cas avec la venue de Pierre et Jean. On a vu que, en toute chose, Philippe se laissait conduire par le Saint-Esprit. Il a entendu une voix pour lui dire d'aller sur un chemin désert entre Jérusalem, qui partait de Jérusalem. Et sur cette route-là, un Éthiopien qui passait cherchait Dieu. Et finalement, Philippe lui a témoigné de Jésus-Christ. Cet homme a été sauvé, il a été baptisé et il est reparti sur son chemin. Donc on voit comment le Saint-Esprit dirige, il conduit. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur Saul de Tarse, qui a aussi été visité par le Saint-Esprit. Mais avant cela, il y a sa conversion au début du chapitre 9. Saul de Tarse, qui était déjà présent lors de la lapidation d'Étienne, il faut se rappeler de cela. Les pharisiens avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme qui s'appelait Saul. C'est la première fois qu'on voit Saul dans le livre des Actes des Apôtres. Il était celui qui gardait les vêtements de ceux qui allaient lapider Étienne. Mais malgré tout, je retiens que Saul de Tarse a bénéficié de la dernière prière d'Étienne. C'est dans Actes 7, 60. « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne a prié donc pour les personnes qui l'ont persécuté. Parmi ces personnes, il y avait Saul. Et il a prié, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. » Et le Seigneur a fait grâce. Et le Seigneur a touché la vie de Saul. Parce que Saul, c'était un homme violent. Au début du chapitre 9, c'est dit qu'il respirait la violence et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il avait obtenu même des autorisations des sacrificateurs pour aller dans les synagogues de Damas, voir s'il se trouvait quelques personnes qui suivaient Jésus pour les amener liés à Jérusalem. Alors sans le savoir, il était en train de lutter contre Dieu parce que c'était l'œuvre de Dieu qu'il persécutait. Sa religion l'avait aveuglé. Et si on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que tout l'Ancien Testament, il pointe vers le Messie. Et nous savons que le Messie, c'est Jésus. Mais les Juifs, ils ont l'Ancien Testament, ils ont toujours la loi. La loi, elle parle toujours du Messie. Mais Paul dit ceci, c'est qu'ils ont comme un voile sur les yeux. Vous voyez, quand on lit Ésaïe 53, par exemple, c'est bien le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, les Juifs le lisent encore dans les synagogues. Ésaïe 53 nous annonce la mort du Messie, qu'il va souffrir, qu'il va donner sa vie pour le salut du monde. Tout est bien expliqué. Si vous lisez le psaume 22, c'est très précis. David a ressenti toutes les souffrances que Jésus a subies à la croix. Tout est annoncé dans la parole de Dieu. Et regardez 2 Corinthiens 3, 5, il y a ce voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, c'est-à-dire quand on lit l'Ancien Testament, toute cette partie de la Bible, un voile est jeté sur leur cœur. Il parle ici des Juifs. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y a un voile. Ça veut dire que la parole est là, le message est là, mais on ne le voit pas parce qu'il y a un voile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Mais quand on se donne au Seigneur, quand on demande pardon pour ses péchés, qu'on croit en Jésus comme notre sauveur, à ce moment-là, il y a comme une éclaircie qui nous permet de comprendre que Jésus, c'est vraiment le sauveur. Il y a quelques années de cela, il y a une personne qui était témoin de Jéhovah, qui cherchait Dieu, malgré qu'il était dans sa religion, il cherchait Dieu, il sentait qu'il fallait aller plus loin et en allant sur Internet, il a trouvé les églises évangéliques et il est venu au milieu de nous et il est venu au culte et il cherchait Dieu. Et quand il a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, quand il a reconnu le véritable sauveur Jésus qui est Dieu, le voile a été ôté. Le voile a été ôté de sorte qu'il a compris toute la parole qu'il lisait avant, il la lisait, il l'étudiait beaucoup, beaucoup. C'était même un ancien, c'est-à-dire un prédicateur parmi les témoins de Jéhovah. Donc il avait une très grande connaissance du texte biblique. Mais il y avait un voile. Et quand le voile a été ôté, c'est comme si tout le logiciel s'était remis en ordre. Tout le logiciel. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait étudié, en fait, il a compris le sens. Et voilà, il a pu vraiment se faire baptiser et marcher avec Dieu, donc c'était extraordinaire de voir que quand le voile est ôté, tout devient clair. Ça va être pareil pour Paul, il avait un voile sur les yeux avant sa conversion, parce que il avait un cœur rebelle, un cœur dur, alors qu'il cherchait Dieu néanmoins. Mais tout d'un coup, la Bible dit, donc sur le chemin de Damas, de Jérusalem à Damas, alors que lui, il partait dans une optique de persécuter les chrétiens, c'est là qu'on voit la grâce de Dieu. Le texte dit tout à coup, une lumière resplendissante vint sur lui. Une lumière qui vient du ciel. Et on ne peut pas dire que Saul cherchait à se convertir à ce moment-là. parce qu'il était plutôt négatif, plutôt contre les chrétiens. Et il entend cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Les premiers mots du Seigneur Jésus à Saul, c'est son prénom. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Deux fois, « Saul, Saul ». Ça veut dire que Dieu nous connaît par notre nom. Il connaît tout de nous. « Saul, Saul ». Saul n'est pas un étranger pour Dieu. Saul le connaît. La grâce est pour tous. Et cette conversion, ça nous montre que la main de Dieu est tendue. Parce que Saul ne méritait pas d'être sauvé, comme nous ne méritions pas d'être sauvés, aucun de nous. C'est Dieu qui a décidé de faire grâce. Parce que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, Saul n'aurait pas été sauvé, mais nous ne serions pas sauvés non plus. Regardez Romains 6, 23, la réalité dans laquelle nous sommes. Nous sommes tous pécheurs, car le salaire du péché, c'est la mort. C'était vrai pour Saul, c'est vrai pour nous. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, c'est la mort éternelle. Mais arrive le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est parce qu'il y a la grâce que nous ne sommes pas condamnés à la mort éternelle. Et dans sa grâce, Dieu veut sauver tous les hommes, toutes les femmes. 1 Timothée 2, 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la grâce de Dieu, elle est pour chacun de nous ce matin. Et si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous n'avez pas donné votre cœur au Seigneur, la grâce de Dieu, elle est pour vous aussi. Même s'il y a un Saul, quelqu'un qui ne veut pas du Seigneur, quelqu'un qui est hostile aux chrétiens, la grâce de Dieu, elle est pour vous quand même. Mais la question que vous vous posez peut-être, si Dieu veut sauver tous les hommes, qu'est-ce qui empêche que tous les hommes soient sauvés? Dieu n'est-il pas tout puissant? Ne peut-il pas tout faire? Eh bien, sa parole nous révèle que oui, Dieu, ce Dieu d'amour veut sauver chacun de nous, mais il demande une seule chose à l'homme, c'est la foi. C'est la foi. Si vous n'exercez pas la foi, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas être sauvé, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est l'acceptation, on ne peut pas forcer, on ne forcera personne à devenir chrétien. C'est un choix personnel, c'est une décision. Mais pourtant, par sa grâce, Dieu attire tous les hommes à Christ. Regardez Jean chapitre 12, verset 32. C'est Jésus qui parle. Il n'est pas encore crucifié ici, mais il annonce l'œuvre spirituelle de la croix. La croix, ce n'est pas juste un événement historique, c'est une œuvre spirituelle qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire quand je serai passé par la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a une sorte d'attraction pour nous amener dans la bonne direction, c'est-à-dire d'aller vers Jésus. Il y a une attraction. C'est ça la grâce. La grâce n'est pas contraignante, elle nous attire dans la bonne direction. Vous n'allez pas être sauvé contre votre gré parce qu'il faut accepter Jésus. Alors, la main de Dieu, elle est là, elle est tendue vers nous, mais encore maintenant, il faut accepter l'œuvre de Jésus. Je prends l'exemple d'un chèque. Si vous recevez un chèque, un héritage, par exemple, vous recevez un chèque de 100 000 euros, vous recevez un bout de papier. En fait, c'est un bout de papier qui n'a pas de valeur vraiment, plus que la valeur du papier en réalité. Il y a marqué une grosse somme dessus, mais c'est un petit bout de papier. Et ce petit bout de papier, si vous le laissez, par exemple, vous le mettez dans votre maison, votre appartement, vous le mettez dans un cadre, vous dites, c'est un beau papier, je le garde. Bien, cette somme ne sera jamais portée sur votre compte. Il faut qu'à un moment donné, vous endossiez le chèque, c'est-à-dire vous signez au dos et vous le déposez à la banque. Ainsi, la somme qui est marquée sur ce petit bout de papier va être créditée sur votre compte. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne l'acceptez pas en quelque sorte, si vous le laissez à la maison, vous le mettez de côté, vous ne le portez pas sur votre compte, ben cette valeur, elle sera virtuelle, elle sera marquée sur un bout de papier, mais elle ne sera jamais portée sur votre compte. Donc la foi, c'est ça. La foi, c'est de dire, ben Seigneur, je crois que ce grand cadeau, quand tu es mort à la croix, que ton sang a versé, c'était aussi pour moi, je le prends sur mon compte. Et c'est ça la foi. La foi, c'est la main de l'homme qui saisit la grâce de Dieu et qui dit « Oui, merci Seigneur, tu l'as fait pour moi ». Et à partir de là, les choses s'enclenchent. Mais le Seigneur qui a versé son sang, c'est bien pour le monde entier, donc il est toujours disponible. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il suffit de se l'approprier finalement. Parce que du côté de Jésus, tout est accompli. Et Saul a accepté Jésus comme son sauveur personnel sur la route entre Jérusalem et Damas. Il s'est converti. Il a changé de vie. Et là, il reçoit une révélation nouvelle, c'est que Jésus qu'il persécutait, « Je suis Jésus que tu persécutes », celui qu'il persécutait, c'est son sauveur. Et en persécutant les chrétiens, il comprend qu'il persécutait Jésus. Et là, il se repent, il demande pardon à Dieu. Et maintenant, il y a un choix à faire ici, c'est-à-dire soit il continue dans sa religion, soit il va suivre Jésus, mais il ne peut pas faire les deux. Il n'y a pas de compromis. Parce que, rappelez-vous que quand il était en voyage de Jérusalem jusqu'à Damas, il était entouré d'amis juifs qui venaient dans la même optique que lui. Sauf que lui se convertit au milieu de tout ça. Mais ça veut dire que cette conversion, il ne peut plus rester dans sa religion. Il est obligé de suivre Christ. Mais ça veut dire que tous ses amis qui étaient là, il ne pourra plus les garder. Mais même ses amis vont devenir ses ennemis en fait. Parce que eux, ils persécutaient les chrétiens. Saul devient un chrétien, donc il devient un ennemi des juifs. Donc, il a accepté Jésus, mais cela a bouleversé sa vie. Et cette grâce de choisir, en fait, c'est Dieu qui nous la donne. Parce que si vous pouvez choisir Dieu, c'est parce qu'il y a la grâce qui vous permet de choisir Dieu. Avec la chute, Adam a perdu la capacité de choisir Dieu, c'est-à-dire de ne pas pécher. Tous on est pécheurs, on est tous pécheurs, on est tous liés dans le péché et on ne peut que pécher. On ne peut même pas choisir Dieu par nous-mêmes. Donc c'est pour ça que la grâce, elle est venue. Vous voyez, si quelqu'un tombe à l'eau et ne sait pas nager, eh ben, il peut se débattre tout ce qu'il veut, il va nécessairement couler et il va mourir. Mais si quelqu'un d'extérieur vient, lui tend la main et le sort, il sera sauvé. Donc cette aide extérieure, elle est pour nous, parce que nous sommes en train de couler dans nos péchés. S'il n'y a pas une aide extérieure, nous ne pourrons pas survivre. Et la grâce, c'est ça. La grâce, c'est cette aide qui vient d'en haut, qui nous retire du danger dans lequel nous sommes. On est sur le point de couler, de mourir. Et elle nous met en sécurité. Donc Saul aurait pu résister à la grâce de Dieu. Là, c'est un petit point que j'aimerais souligner, parce que Dieu ne vous forcera pas à vous convertir. Il n'a pas forcé Saul de Tarse, car l'évangile vous place devant un choix. Ce choix, vous le trouvez dans Deutéronome 30, 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous, c'est Dieu qui parle, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et voyez la fin du verset. Choisis la vie. Et ça, c'est la part qui nous revient, parce que si on fait le mauvais choix à ce moment-là, eh bien, c'est la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. D'ailleurs, par la suite, lorsque Paul va donner son témoignage devant le roi Agrippa, il va dire ceci, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Ça veut dire qu'il aurait pu résister, mais il a dit « Je n'ai pas résisté. » Ça veut dire « J'ai accepté, j'ai donné mon cœur au Seigneur. » Vous voyez, il n'était pas contraint de le faire. Il l'a fait par amour pour Dieu, par reconnaissance. Il ne s'est pas opposé à la conviction de péché, il ne s'est pas entêté dans sa rébellion, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui s'entêtent à refuser de se convertir. Ils ne veulent pas se convertir. Et Jésus le dit aux pharisiens, c'est un cas de figure, Jean chapitre 5, verset 40, il y a ici des pharisiens, des juifs, la parole, Jésus est venu pour eux, pour les sauver, pour leur ouvrir les yeux, et il dit, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. À un moment donné, il y a cette responsabilité, ce choix. Ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas de Jésus. Moi, je vous souhaite de venir à Jésus parce que c'est là que vous trouverez la vie et le pardon des péchés. Mais ce sera votre décision. Mais sachez que si vous ne le faites pas, c'est la mort éternelle. La parole de Dieu est claire. Donc, la lumière était si forte lorsque Saul était sur son cheval, il est tombé par terre. La lumière l'a aveuglé. Il est resté aveugle 3 jours. On l'a conduit à Damas, donc forcément, lui qui ne voyait plus, il fallait que quelqu'un le dirige. Et là, il est resté à l'écart. Ben, quand vous êtes à l'écart, quand vous êtes dans une grosse épreuve, c'est le temps de se poser des questions. Et il s'est analysé devant Dieu, un petit peu comme le fils prodigue qui était là au milieu des pourceaux. Il s'est posé des questions, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, ma vie, ça ne va pas, il faut que je revienne à la maison du Père. Donc, Saul a fait sa démarche intérieure. Il a réalisé que sa religion ne lui apportait pas la vie. Il a compris que Jésus, c'était son sauveur, que c'était le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Maintenant, il avait découvert que Jésus était le Messie. Ça a bouleversé sa vie. Et en fait, ce temps, c'est le temps du brisement. C'est le temps où son orgueil est détruit. Et c'est le temps où il va pouvoir se tourner vers Dieu. Et on arrive au deuxième point, c'est la visite d'Ananias. Alors Ananias, qui était Ananias ? Ananias, c'était un disciple du Seigneur. Il était tranquille, Ananias. Il était chez lui, priait le Seigneur, mais il ne voulait pas, il ne cherchait pas d'histoire avec personne. Mais Dieu lui donne une mission. Et savez-vous que Dieu peut nous donner une mission à nous aussi ? Une mission qu'on n'a pas du tout envie de faire. Amen. Gloire à Dieu. Si c'est une mission qui vient du Seigneur, c'est bon. Alors les directives sont précises, voilà, Dieu lui parle et lui dit, voilà Ananias, j'ai une mission pour toi, tu vas aller dans... Alors il lui donne l'adresse, il lui donne le nom, tu vas voir un homme qui s'appelle Saul, mais Saul était connu. Et puis il dit, j'ai donné ton nom à Saul, donc il sait qu'il y a Ananias qui doit venir. Et puis il lui dit, tu vas prier pour lui, et voilà, il lui donne toutes les consignes. Donc le désir du Seigneur, c'est encore de nous diriger, c'est à nous d'être à l'écoute, on voit les précisions, on voit comment Dieu dirige, il n'y a pas de problème du côté de Dieu. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à nous d'être à l'écoute, nous devons y prendre garde. Mais Ananias, quand il entend le nom de Saul, en fait c'était un nom qui faisait des frissons, c'était un persécuteur. Et il n'a pas du tout envie d'aller à la rencontre de Saul. Alors Ananias va expliquer au Seigneur toutes les bonnes raisons qu'il y a pour ne pas y aller. Il explique, voilà, il a fait beaucoup de mal aux chrétiens, il a des lettres pour arrêter les disciples, donc il va m'arrêter, donc il veut éviter d'obéir à Dieu. Mais en fait, ce qu'Ananias n'a pas compris, c'est que Saul est devenu un enfant de Dieu, et il faut du temps pour accepter. Alors vous serez parfois tenté de négocier avec Dieu parce que Dieu vous a demandé de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous essayez peut-être de le faire changer d'avis. Vous avez déjà essayé de faire changer Dieu d'avis ? Ça ne marche pas. Dieu ne change pas d'avis. Si vous ne voulez pas, il utilisera quelqu'un d'autre. Mais il arrivera à son plan. Il ne changera pas d'avis pour vous. Vous essaierez de lui faire comprendre que vous n'êtes pas la meilleure personne, que ça ne convient pas. Le champion des négociations, c'était Moïse. Ah, Moïse, il négociait avec Dieu. Il négociait chaque chose. Moïse, il a été appelé à aller délivrer le peuple d'Israël. Première objection, mais qui suis-je moi ? Simple Moïse, simple berger pour aller vers Pharaon. Vous voyez, déjà, il n'a pas trop envie d'y aller. Alors Dieu lui répond, mais je serai avec toi. Alors Moïse continue, mais Seigneur, s'il me demande ton nom, moi je ne saurais pas quoi dire. Il espérait que ça allait passer à côté. Mais Dieu lui dit, non, je suis celui qui suis, tu leur dis, non, tu donneras mon nom. Alors Moïse continue, mais Seigneur, mais ça va être compliqué. Ils ne vont pas croire quand je vais leur raconter toutes ces histoires. Alors Dieu lui fait expérimenter un miracle, il lui dit « jette ton bâton », le bâton se transforme en serpent. Et quand il le reprend, ça redevient un bâton. Alors Moïse n'est pas encore convaincu et il dit « mais Seigneur, je n'ai pas la parole facile, j'ai la bouche embarrassée ». Vous voyez, à chaque fois il trouve des excuses, il ne veut pas y aller. Mais Dieu lui répond « mais qui a fait la bouche de l'homme ?» Je serai dans ta bouche et tu parleras. À chaque fois, en fait, Dieu a une réponse à toutes nos objections. Et enfin, Moïse, en désespoir de cause, il dit à Dieu, envoie qui tu voudras, mais pas moi, envoie un autre, envoie quelqu'un d'autre. Non, Dieu n'a pas changé son plan. Il dit, toi tu iras et je t'enverrai Aaron qui sera avec toi et vous irez tous les deux. Donc ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, on pense que ce n'est pas la bonne chose, mais Dieu, lui, il a un plan et c'est à nous d'obéir. Saul, donc, est un instrument. Moi, j'aime bien cette expression, vous voyez, on l'a lu. C'est un instrument, au verset 15, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. C'est un instrument. Qu'est-ce que nous sommes d'entre les mains de Dieu ? Nous sommes des simples instruments. Ça, on doit le comprendre. Parce que Dieu a un plan pour nous. Mais quand, par exemple, un artisan, il veut fabriquer un meuble, il veut fabriquer quelque chose, il a des outils sur son établi. C'est pas l'outil qui va décider ce qu'il va faire. C'est l'artisan qui va prendre, par exemple, un marteau. Il va prendre un marteau, il va commencer à planter des clous. Donc, c'est pas nous qui décidons, c'est l'artisan, et l'artisan, c'est Dieu. Nous sommes des outils sur l'établi. Alors, je ne sais pas quel outil vous êtes. Si vous êtes une scie ou un marteau. Moi, mon nom, c'est Jean-Marc. Ça veut dire grâce marteau. Je suis un marteau. Entre les mains de Dieu, je suis un outil. Alors, il y a des outils qui sont plus petits, il y a des outils qui sont plus importants, voyez, il y a des outils. Mais chaque outil, il va être utilisé à un moment donné pour le bien de l'ensemble. Donc, on doit comprendre qu'on n'est qu'un simple outil. Et Saul devra aussi souffrir. Bon, ça, c'est la partie qu'on aime le moins, mais ça fait partie quand même de l'appel. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Merci Seigneur, je suis un instrument, je suis choisi. Jusque-là, tout va bien. Gloire à Dieu. Amen. Mais la suite. Je lui montrerai tout ce qu'il doit. On a du mal à le dire. C'est marqué ? Souffrir. Ça, c'est un verbe qu'on n'aime pas. Et en plus, c'est Dieu qui le dit. Il va souffrir pour mon nom. Ça fait partie de l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs. Il y a un combat dans lequel nous sommes. Il y a une souffrance, mais Dieu est source de consolation et il console nos cœurs. 1 Corinthiens 4, 13, voilà les souffrances de Paul. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. 1 Corinthiens 4, 13, calomniés, les balayures du monde. Voilà la situation dans laquelle il est. Il sert le Seigneur, c'est un combat. Mais Dieu lui a donné la force de surmonter les épreuves. Et même si nous avons de la souffrance, frères et sœurs, nous avons ce Dieu d'amour, ce Dieu de consolation qui console nos cœurs. Mais ne croyez pas que servir Dieu se fait sans souffrance. Il y a une part de souffrance. Ananias obéit à Dieu finalement. Il va aller prier pour Saul. Moi, j'aime bien quand Ananias arrive. Vous savez, les premiers mots qu'il dit à Saul, il ne lui dit pas « Saul ». Il lui dit « Mon frère ». Ma sœur, mon frère. C'est extraordinaire parce que quelques instants auparavant, il ne voulait pas du tout le rencontrer. Comme quoi Dieu est capable de changer nos mentalités et de nous rendre dociles. Mon frère, mon frère. C'est le même Saul et pourtant maintenant c'est son frère. C'est-à-dire qu'Ananias a compris une grande vérité spirituelle. C'est que si on est tous des créatures de Dieu, parce que si vous avez la vie, c'est bien Dieu qui vous l'a donnée, vous êtes une créature de Dieu. Mais toutes les créatures de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Seuls sont enfants de Dieu ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et comme Saul avait accepté Jésus dans sa vie, donc Dieu est devenu son père, donc il est devenu enfant de Dieu. S'il est enfant de Dieu, il est donc le frère d'un autre enfant de Dieu. Donc nous sommes tous frères et sœurs quand nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, c'est une vérité spirituelle que nous sommes une famille. Et dans une famille, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi Ananias, maintenant, il aime Saul. Mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue. Ah, il l'appelle mon frère, ce Saul. Alors, nous devons développer ce même amour fraternel dans l'Église. Regardez Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Les uns pour les autres, ce sont des frères et des sœurs en Christ. par honneur, user de prévenance réciproque. Voilà ce qu'on devrait trouver dans l'Église. L'amour fraternel, la prévenance, la politesse, l'aimabilité, la gentillesse, la douceur. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'Église ? La jalousie, les rivalités, de la haine. On en voit même qui se mordent les uns les autres. Galates 5:15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voilà, on vit le contraire de la parole de Dieu quand on est charnel, quand on est centré sur soi, alors que Dieu veut l'amour fraternel, Dieu veut la douceur, Dieu veut la prévenance. C'est ce que nous devons rechercher en priorité et chasser tout le reste. Ananias prie pour que Paul soit rempli du Saint-Esprit, donc c'est là. Il est converti depuis 3 jours, mais il n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. Il a déjà accepté Jésus comme son sauveur, il est né de nouveau, né de l'Esprit. Et on voit que les premiers chrétiens, dès la conversion, ils cherchaient à être remplis du Saint-Esprit. Et ça doit être pareil aujourd'hui. Nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. Éphésiens 5:18, c'est un verset de Paul concernant la vie de l'Esprit. Et c'est un impératif. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. » Ou on pourrait traduire « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. » C'est un présent. C'est un impératif présent, mais permanent. On devrait donc rechercher le Saint-Esprit. Comment ? Ben par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Aussi, avoir la conviction que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Vous voyez, Luc 11, 13, c'est Jésus qui en parle. « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Voilà ce que nous devons rechercher, c'est d'être remplis du Saint-Esprit et faire la volonté de Dieu. Après son baptême d'eau, on voit que Paul va prêcher la parole de Dieu. On pourrait dire que c'est très rapide, il est tout jeune converti, il vient d'être baptisé. Déjà, il prêche la parole de Dieu. Mais il faut pas oublier que Saul avait étudié la loi de l'Ancien Testament pendant des années et qu'il était prêt. Il suffisait qu'il accepte Jésus comme son Seigneur et que maintenant la parole devient pour lui évidente. Et il est capable de la prêcher. Donc, il avait compris qu'il fallait obéir et faire de suite l'œuvre du Seigneur. Saul a reçu un don pour la prédication. Et la Bible dit qu'il se fortifiait de plus en plus. Ça veut dire qu'il grandissait en maturité. Et dès que vous devenez chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes appelé à grandir et pas à rester bébé spirituel. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui reste au stade du biberon. Vous voyez, c'est un paradoxe parce qu'on est dans une société, on a tout ce qu'il faut pour être enseigné avec Internet, il y a des messages, il y a des formations. Et pourtant, on voit des chrétiens très faibles sur le plan spirituel. 1 Corinthiens 3:2, Paul en parle à Corinthe, il dit « Mais je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Alors, nous devons viser la maturité spirituelle. Et pour devenir des chrétiens matures, eh bien, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, étudier la Bible, bien sûr, c'est une étude personnelle, j'allais dire une lecture quotidienne, une méditation. C'est aussi tout ce qu'on a compris, ben, le mettre en pratique, et puis accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Vous voyez, un chrétien mature doit pouvoir dire, Galates 2:20, ça c'est Paul qui le dit, mais chaque chrétien mature doit pouvoir le dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce que là où nous devons arriver, frères et sœurs, c'est que nous soyons crucifiés avec Christ et que Christ vit pleinement en nous et ainsi nous marchons de progrès en progrès à l'image du Seigneur. Je termine avec un dernier verset, c'est Acte 9, 31, c'est qu'on voit que le Saint-Esprit accompagnait la croissance de l'Église. Acte 9, 31 dit ceci, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Déjà, on voit qu'il y a la paix dans l'Église, et ça c'est bien quand on voit une Église où il y a pas de division, qu'il n'y a pas de conflit, mais qu'il y a la maturité spirituelle, il y a l'amour. C'est ce que nous devons rechercher. On voit aussi la crainte du Seigneur, c'est-à-dire un saint respect pour Dieu, pour sa parole, pour sa présence. On n'est pas négligent. Eh bien, la croissance, c'est le Saint-Esprit qui permettait des convictions de péché. C'est le Saint-Esprit qui amenait des repentances. Il y avait des dons spirituels. Le Saint-Esprit parlait. Et puis, il y avait l'amour répandu dans les cœurs. Donc, les personnes nouvelles sont touchées lorsque une personne nouvelle vient dans notre église et qu'elle voit l'amour fraternel, elle est déjà touchée par la présence de Dieu. Quand on manifeste l'amour fraternel, on est en train de témoigner de la gloire de Dieu. C'est important et c'est ce qu'on doit faire. Alors, on va prier quelques instants. On a vu cet homme, Saul. Je dirais que pour nous, c'est la preuve qu'il n'y a pas de situation trop difficile. Peut-être, mon frère, ma sœur, tu t'es lassé de prier pour ton enfant, pour un conjoint, pour une personne de ta famille, peut-être un parent, en pensant qu'il ne se convertira jamais, mais la main de Dieu n'est pas trop courte pour intervenir encore. Ne te décourage pas. Si le Seigneur a trouvé le chemin pour toucher le cœur de cet homme, Saul, qui était un des plus rebelles, un des plus résistants, alors il peut le faire pour la personne pour qui vous priez. Il n'y a pas de cœur trop dur pour le Seigneur. Dieu n'est pas limité. Et puis, on a aussi besoin d'être rempli du Saint-Esprit, comme Saul en avait besoin en son temps, même après sa conversion. Eh bien, il a été rempli du Saint-Esprit. Nous devons le rechercher dans nos cœurs. Et puis, laissons le Saint-Esprit agir au milieu de nous pour la croissance, pour le développement de nos églises, afin que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse librement. Merci encore pour ta parole, pour tes conseils, parce que c'est la vérité. C'est le chemin vers lequel tu veux nous emmener. Et nous te prions, Seigneur, de nous garder dans ta paix encore le reste de cette journée, de nous permettre d'avancer encore en maturité, en croissance spirituelle, de mieux te connaître, de mieux vivre cette vie de l'Esprit que tu veux pour tes enfants. Oui, Seigneur, viens nous accorder encore ces visions, ces révélations, ces paroles d'en haut qui nous permettent de faire ton œuvre. Nous voulons être comme Ananias, obéissant lorsque tu nous demandes une tâche, lorsque tu nous demandes de nous mettre à part pour un service, pour faire quelque chose dans ta maison. Seigneur, nous voulons être participants et partants pour tout ce qui concerne ta volonté. Oui, même si nous ne le voulons pas, Seigneur, nous voulons t'obéir par soumission et par reconnaissance de ce que tu as accompli. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.